Voilà, je vais prier. Merci Seigneur pour la façon dont tu parles. Seigneur, merci parce que tes plans sont parfaits. Et Seigneur, tu veux t'adresser à nous de différentes manières et tu le fais. Seigneur, je te rends gloire ce matin. Je te rends gloire de ce que, par ton esprit, tu es capable, Seigneur, de parler à chacun de nos cœurs de différentes manières. Je te demande de continuer dans ce sens, Seigneur, afin que nous puissions être édifiés, mais surtout, Seigneur, que nous puissions grandir en toi, te connaître mieux, nous rapprocher de toi, Seigneur, et être dans l'attente de ta venue dans la paix. Que ton nom soit béni. Amen. Alors. Seigneur m'a mis à cœur de parler un peu de l'Église c'est un exercice un peu difficile pour moi. C'est plutôt un peu une étude qu'une prédication à proprement parler. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà ce matin, on a eu des... J'ai eu ça à cœur il y a une dizaine de jours, et ce matin, il y a eu des passages clés qui ont été cités. On voit comment le Seigneur amène toutes choses ensemble, sans qu'on ait besoin de forcer, sans qu'on ait besoin de calculer les choses, sans qu'on ait besoin de se téléphoner, dit « tu vas parler de quoi ?» C'est le Seigneur qui le fait, et qui fait que le culte, dans son ensemble, est cohérent. Et c'est ça qui rend gloire à Dieu. L'Église, dans le Nouveau Testament, est traduite par, en grec, on parle de l'Ecclésia, donc qui désignait à l'époque un ensemble, une communauté politique, souvent à l'époque des Grecs, qui se réunissait pour débattre, pour délibérer, pour parler. Et l'Ecclésia, donc, représentait une assemblée de personnes. En hébreu, l'Ecclésia se dit Kaal. La prononciation, m'excuserez, mais enfin, quelque chose dans le genre-là. Dans l'Ancien Testament, Kaal représentait le peuple d'Israël, enfin la communauté religieuse d'Israël. Le peuple de Dieu en tant que peuple élu, lui appartenant, dans lequel... Dieu trouvait son plaisir. Kaal était l'Église de Dieu. La Nouvelle Alliance n'a pas évacué cette idée-là. L'Assemblée, la communauté aujourd'hui, reste l'Église de Dieu. L'apôtre Paul s'adresse à l'Église de Dieu à Corinthe, par exemple. Mais on a d'autres endroits où il en parle également. Mais l'Église a pris d'autres noms et elle est devenue aussi l'Église de Christ, l'Église du Seigneur, l'Église des saints. Elle est aussi l'Israël de Dieu. Ça, on le lit dans les Galates. L'Église est donc, en quelque sorte, une extension de l'Église initiale, de l'Église d'Israël, l'Église des chrétiens d'aujourd'hui, et en quelque sorte, cette émanation de l'Église communauté religieuse, de l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc Paul nous parle de nous, de l'Église, comme l'assemblée des circoncis, ceux qui sont les vrais fils de la promesse, ceux dont la promesse avait été faite à Abraham et qui, sont réalisés au travers de Jacob. Nous sommes donc une sorte de continuité dans l'histoire. L'Église... Tout le monde le sait. Pour beaucoup, ça va paraître des banalités, mais Le Seigneur m'a demandé de le dire et je le fais. L'Église est universelle. Elle est catholique. C'est son terme générique, universel, catholique, c'est pareil. L'Église est l'épouse de Christ, mais c'est l'épouse en devenir. C'est la fiancée plutôt que l'épouse. Elle sera l'épouse lorsque l'époux viendra la chercher. Actuellement, elle est la fiancée. Elle est apprêtée par Jésus-Christ lui-même. Elle est préparée. On en discerne les contours parce qu'elle est voilée. Mais un jour, Jésus-Christ viendra ôter le voile et prendra l'Église comme son épouse. Jésus n'est pas l'époux de l'Église locale. Il n'est pas l'époux de l'Assemblée évangélique d'Hasbrouck. Dans le sens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est l'époux d'une fiancée mystique, on pourrait l'appeler comme ça, qui existe au travers du monde. Donc une fiancée qui se construit, qui se bâtit, mais pas depuis hier. Depuis, Pascal disait 2500 ans, hein, c'est un peu trop. Mais depuis la Pentecôte, il est dit que... Qu'est-ce qui était dit ? Que les croyants, ceux qui croyaient, étaient rajoutés, ajoutés à l'Église. À ce moment-là, qu'est-ce qu'était l'Église ? L'Église locale était où ? À Jérusalem. L'Église universelle était où ? À Jérusalem aussi. Donc il y avait cette période des débuts où l'Église locale et l'Église universelle, l'Église catholique, étaient complètement liées, complètement intriquées. Ça a duré un temps qu'on a du mal à déterminer, je crois. Mais ceux qui croyaient étaient rajoutés à l'Église. Et on ne se posait pas la question de savoir si c'était l'Église locale ou l'Église universelle. C'était l'Église. Dans Matthieu 16, on ne va pas y venir, mais vous rappelez les paroles, cet entretien entre Pierre et Jésus. Et au cours de cet entretien, Jésus dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église. Je passe sur le différent entre l'Église catholique et l'Église protestante qui parle de Pierre comme étant le fondateur. » Pierre avait sans doute un rôle à jouer, c'est clair. De là à lui donner l'importance qu'on lui a donnée, c'était peut-être exagéré. Mais je crois que ce qu'on oublie, ce sont les paroles de Jésus. « Je bâtirai mon Église. » Et ces personnes d'autres, qu'on le veuille ou non, il n'y a qu'un bâtisseur. Il n'y en a qu'un qui a la charge de préparer l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Et toute autre théorie, toute autre forme de construction d'église, automatiquement passe à la trappe à cause de ces paroles de Jésus-Christ. « Je bâtirai mon église. » En disant cela, il a aussi commencé à le faire. Lorsque Jésus parle, il accomplit en même temps qu'il parle. Parce que sa parole est créatrice. La parole de Dieu crée ce qui est dit. C'est pour ça que c'est intéressant que Jésus parle dans nos vies. Lorsqu'on dit « Jésus m'a parlé », On n'est pas en train de dire, ah, j'ai eu une communication qui m'est arrivée à mon esprit et ah, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Moi, quand les gens me disent Jésus m'a parlé et que ça ne m'a pas changé, alors je considère que Jésus n'a pas parlé. Lorsque Jésus parle, il crée. Et lorsqu'il crée, il est en train de faire quelque chose en vous. Soit il est en train de détruire quelque chose, soit il est en train de bâtir quelque chose. Et ça vous change une personne. Ce n'est pas juste des feelings, des impressions sympathiques, pas sympathiques. Lorsque Jésus parle, il accomplit ce qu'il dit. Parce que l'homme a cette capacité de beaucoup parler et de ne pas faire grand-chose, alors que Dieu n'a pas cette faculté. Lorsqu'il parle, il laisse quelque chose d'éternel derrière lui. Qu'est-ce que n'est pas une église, l'Église universelle ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. L'Église universelle n'est pas l'Assemblée évangélique ou Église évangélique d'Hasbrook. Ni celle-ci, ni celle qui est de l'autre côté là-bas. Ni d'ailleurs aucune Église locale. Ni l'Église catholique, ni l'Église protestante réformée, ni l'Église protestante évangélique, ni les pentecôtistes. Aucune de ces églises, aucune de ces dénominations, aucun de ces groupes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur organisation, n'est l'Église universelle. Sur aucune de ces maisons, Dieu n'a pu mettre son sceau, Église approuvée, bonne pour l'Église universelle. Ça n'existe pas. Il y a aujourd'hui beaucoup de tentatives qui sont faites pour unir des assemblées, pour unir des groupes. Et on essaye de mettre ensemble ceux qui se ressemblent. Et on essaye de trouver un dénominateur commun. Et quand on commence à chercher, on s'aperçoit que on a commencé là, et on arrive à faire l'unité seulement là, sur le plus petit des dénominateurs communs. Ça ne fera entrer personne dans l'Église universelle. Certains créent des chartes, des confessions de foi communes, des déclarations célèbres, vous pouvez lire sur Internet la déclaration de Lausanne en 1974, où 150 églises ont pris des dispositions pour s'aligner sur une confession de foi commune, qui est très bien d'ailleurs. Mais ça ne fera pas de ces églises une église universelle. On nous reproche parfois le manque de cohésion. Et peut-être on le reprochera encore plus ici, parce qu'ici on n'appartient à rien. On nous reproche de ne pas être unis aux autres. Dernièrement, à mon travail, quelqu'un m'a dit « Oui, mais vous êtes qui ? Vous appartenez à quoi ? Vous êtes participant de quel... Je dis, ben, rien. On n'appartient à rien. On n'est participant de rien. On ne paye de cotisations à personne. Oui, mais ça ne fait pas sérieux. Ça fait même peur. Moi, je vais vous dire ce qui fait peur. Ce sont les multiples associations indignes que font certaines églises. dans leur fonctionnement. Lorsqu'elle commence à mélanger avec la politique, lorsqu'elle commence à même avec le social, des associations qui, au total, finissent par faire décliner l'Église plutôt que de la faire grandir. Ce n'est pas le manque d'associations qui fait le problème. Ce sont les très mauvaises associations qui sont faites qui causent le problème. Dans Jean 17, Jésus parle de l'unité qu'il a avec son Père et avec nous. Et c'est ça le réel fondement de l'Église. Au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » L'Église universelle est bâtie sur ce principe-là, sur le fondement, qui est que Dieu et Jésus sont un et que nous sommes au bénéfice de cette unité. Moi en eux. Et c'est ça le lien entre les croyants et qui forme l'Église universelle. Christ en eux. Donc nous ne sommes pas appelés à bâtir nous-mêmes l'unité de l'Église. C'est Jésus-Christ qui le fait, n'est-ce pas ? Nous l'avons compris. Je bâtirai mon Église. Par contre, nous sommes responsables de conserver la paix, le lien de la paix, l'unité de la paix. Ça, ça fait partie de notre travail. Ne pas chercher les histoires. Ne pas chercher les divisions. Ne pas chercher à avoir raison contre l'autre. Et aujourd'hui, il y a des courants dans l'Église. Il y a des gens qui ont leur cheval de bataille et qui sont dessus et qui combattent, qui cherchent à avoir raison au nom du plus haut intérêt qu'ils puissent trouver, c'est-à-dire le Dieu qu'ils connaissent. Ils cherchent à avoir raison. La prédestination, pas la prédestination. Il y a une quantité de sujets comme ça qui font marcher les pensées des gens, qui créent des divisions dans l'Église et qui empêchent d'avancer. Je ne dis pas qu'on doit être d'accord sur tout. Il ne s'agit pas de ça. Mais je dis qu'on doit, et c'est ça le signe de l'Église, on doit aimer notre frère au point de pouvoir accepter qu'il a un avis, une opinion différente de la nôtre. Gardez le lien de la paix, l'unité. L'Église universelle n'est pas une organisation, et j'utilise le terme organisation à dessein, ceux qui ont fait la sociologie des organisations savent de quoi je parle. Une organisation est quelque chose qui se décrit très facilement. On peut savoir exactement qui fait quoi, comment on le fait. On peut mesurer le fonctionnement. Il suffit d'être là et d'observer les déplacements des gens, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, à quelle heure ils viennent, à quelle heure ils ne viennent pas, leur participation, relever la dîme. Il suffit de faire ça. Et on a une organisation. Mais l'Église universelle n'est pas une organisation. Elle est un organisme. Quelque chose de vivant. Et en cela, elle est imprévisible. Certaines églises ont soif de reconnaissance. Elles souhaitent que lorsqu'on les voit, on puisse dire « Ah, c'est bien ce qu'ils font ». Évidemment, c'est mieux qu'on puisse dire de nous « C'est bien ce que vous faites » que l'inverse. Mais à quel prix ? À quel prix ? Dans 1 Corinthiens 9, au verset 20, l'apôtre Paul dit quelque chose qui est souvent utilisé par ceux qui disent « il faut qu'on soit reconnu ». Je me suis rendu... Alors, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. On utilise ça pour faire passer le message que, eh bien, il faut quand même que l'Église se mette au niveau du monde pour que le monde la comprenne. Sinon, comment est-ce possible? Comment faire pour que le décalage diminue? Le décalage ne diminuera pas. Le décalage va grandir. Au fil du temps, alors que nous passons des étapes, le décalage va grandir. Plus nous nous rapprochons de la fin, plus on va se retrouver complètement en porte-à-faux avec le monde. Et plus il faudra faire le grand écart pour essayer de concilier les deux. Lorsqu'on utilise ce verset, il est préférable de le lire avec les versets qui l'entourent. Et si on lit avant le verset 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. » Et si on lit le verset qui vient après, au verset 22, « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Avant, Pascal a fait lire un passage où il était dit que Jésus où il était dit que vous ferez de plus grandes choses encore. C'est dans Jean 14. Et je me suis souvent demandé, mais qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit cela? Comment est-ce qu'on peut faire de plus grandes choses encore? La réponse se trouve dans Romains. au verset 8, l'apôtre Paul nous dit ceci. « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. » Et si vous revenez à mon passage, 1 Corinthiens 9, c'est ça ? J'ai une très mauvaise mémoire. Alors, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi comme sans loi. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. Jésus s'est fait serviteur des circoncis. L'apôtre Paul s'est fait serviteur de tous, des circoncis et des incirconcis. Et c'est en cela que l'apôtre Paul a fait plus que ce que Jésus a fait. Il a fait une plus grande chose que Jésus. Il a été serviteur de tous, ce que Jésus n'a pas pu faire lors de son ministère sur la terre. Alors, si nous voulons de la reconnaissance, c'est là le rôle de l'Église. C'est là le rôle du croyant. Être le serviteur de tous. Et ainsi, nous accomplirons de plus grandes choses que Jésus. Dans 1 Corinthiens 3, verset 9, l'église locale, il nous est dit, est un édifice spirituel. Et nous devons faire attention à ce que nous faisons. L'Église universelle est un édifice spirituel. L'Église locale, même si elle n'est pas celle qui est l'épouse, est aussi un édifice spirituel. Elle est composée de membres qui sont très divers. Alors, comment est-ce qu'on fait une église ? Certains membres sont actifs, certains signent pour l'assemblée culturelle, certains pour l'assemblée culturelle et culturelle. Ailleurs, pour être membre, il faut se faire baptiser, et plus petit on est, mieux c'est. Ailleurs, c'est le niveau d'investissement qui va faire que on va être considéré comme étant membre de l'Église. Ailleurs, il va falloir qu'on soit né de nouveau. Voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est la mode aux États-Unis. On distingue les Églises entre les born again Christians et les autres. Et en fait, si on creuse un peu, on s'aperçoit que le born again, c'est un laissez-passer. Est-ce que tu es né de nouveau ? Oui, j'ai fait une prière il y a 5 minutes avec le pasteur. La repentance, c'est quoi ? Tu as pleuré sur tes péchés ? Oui, j'étais triste. L'esprit de contrition, l'esprit qui a animé David, c'est ça qui doit remplir une église. D'accord? C'est ça. Verset 9 du 1 Corinthiens 3, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Est-ce que lorsque nous venons ici, à l'église évangélique d'Hasbrook, nous avons le sentiment que nous avons été ajoutés à l'église par Dieu? Ou est-ce que nous venons ici par défaut? Quelqu'un me disait dernièrement, Hasbrook, c'est pas compliqué de toute façon, hein, il y en a deux. Tu choisis, c'est l'une ou l'autre. Si t'es pas content, ben tu restes chez toi. Hein. Parce qu'après, c'est loin. Bon, certains font des kilomètres, Pascal. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été ajouté à l'Église? Ou est-ce que le dimanche matin, c'est... Bon, il y a mon esprit religieux qui s'est éveillé et il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que sinon je vais me sentir mal toute la semaine. Donc il faut que j'aille dans un lieu. Tiens, Hasbrook, c'est juste à côté. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que le Seigneur vous a poussé là et vous a dit, je te veux dans cet endroit, je veux que tu y restes, je veux que tu travailles comme un ouvrier dans mon champ. Ah, mais moi, je ne veux pas être ouvrier, Seigneur, je veux être cadre. Désolé. On peut tous être cadre, si vous voulez. Ouvrier dans le champ du Seigneur. Moi, je sais, une église qui se respecte n'a pas de cadre. Ça n'existe pas. Et plus vous montez, plus vous êtes un ouvrier. Il faut faire attention à comment l'on bâtit. Ce qui est bien avec la parole, c'est que ce qui se rapporte à l'Église se rapporte aussi à nos vies personnelles. Parce qu'une église, c'est fait avec des individus. Et au total, l'église universelle, c'est l'association de un, de un, de un, de un, de un. Et le jugement, c'est pas un groupe qui va être jugé. C'est une personne, à la fois, devant Dieu. Alors, il faut faire attention à comment on bâtit sa vie personnelle face à Dieu. Mais dans l'Église aussi, est-ce qu'on bâtit avec de l'or, de l'argent, des métaux précieux, ou du chaume, du foin, du bois, des choses qui brûlent? Vous savez, ce qui me fait dire que cette assemblée a été bâtie avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, des métaux précieux, c'est que malgré les moments où le feu est venu, parce que le feu est venu, vous le savez, eh bien, l'édifice est resté. Pas le bâtiment ! Les corps. Les corps remplis par l'Esprit de Dieu, travaillés par l'Esprit de Dieu, sont restés. Ils sont toujours là. Ils fonctionnent toujours. Parce que depuis le début, cette église a été bâtie sur un fondement ferme qui est Jésus-Christ, bâtie par de sages architectes. Et il convient que les choses continuent ainsi. Au revoir, frère. Pourquoi est-ce qu'il y a une église locale? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste être chacun dans notre coin? Ça existe, hein. Il y a certains endroits où l'église ne peut quasiment pas se réunir. Vous allez en Corée du Nord, s'il y a des réunions, ce sont des réunions très très informelles. Nous sommes un temple saint. Une habitation de Dieu dans l'esprit, un édifice bien coordonné. C'est pour cela que l'église locale existe, pour offrir dans ces lieux des victimes spirituelles à Dieu, des offrandes spirituelles à Dieu. Des sacrifices de bonne odeur. Comprenez, pour faire tout cela, pour que cela effectivement soit un sacrifice de bonne odeur, il faut que les uns et les autres se sentent concernés par les mêmes choses. Il faut qu'il y ait une unité de cœur. Il faut que les différences soient gommées dans l'amour. Pour que, lorsque l'Église prie, il y ait quelque chose de bon qui arrive au trône de Dieu. Lorsque l'Église parle, il y ait quelque chose qui réjouisse le cœur de Dieu. Lorsque l'Église pleure, Dieu est au courant et il pleure avec. Lorsque l'Église est dans la joie, Dieu est dans la joie avec elle. Il y a des gens dans l'Église qui ne sont pas au Seigneur. Je dis pas ça parce que je connais des gens dans l'Église qui ne sont pas au Seigneur. Il y a des gens dans les églises locales qui n'appartiennent pas au Seigneur. Ils remplissent les conditions, mais ils n'appartiennent pas au Seigneur. Mais il y a des églises locales qui ne sont pas des églises. Parce qu'on ne fait pas une église en réunissant ensemble des chrétiens, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il y a des chrétiens dans un coin que ça fait de ça une église. C'est pas parce qu'il y a un besoin quelque part. Allez, il y a un trou là-bas, on va le remplir. Aujourd'hui, vous pouvez prendre des cours pour planter des églises. Je vais vous dire, il existe les mêmes cours pour planter des entreprises. C'est les mêmes. Vous changez juste certains termes. On ne prend pas des cours pour planter une église. On part sur un appel divin. Les apôtres eux-mêmes ne sont pas partis, ils sont restés à Jérusalem. Et ensuite, lorsque Étienne a été lapidé, il y a eu une dispersion. Et c'est à ce moment-là que Dieu a agi pour l'évangélisation. On ne part pas à planter une église parce que c'est une bonne idée. On part parce qu'il y a un appel. Et le drame de la vie chrétienne aujourd'hui, le drame des églises aujourd'hui, c'est que dès qu'on trouve qu'il y a un bon créneau, on y va. Mais derrière, il n'y a pas d'appel. Mais on n'a pas besoin d'appel. On a toutes les techniques qu'il faut pour faire croire que c'est un appel. On a tout ce qu'il faut pour faire croire que c'est un appel. On peut même remplir l'église. Vous voyez, Dieu nous bénit. Et derrière, vous avez fait des chèques de je ne sais combien de millions. Une église est une église parce qu'il y a un appel et parce que dans cette église, l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu agit dans les cœurs. Ça peut durer longtemps, ça peut aller vite. Ça dépend des circonstances et ça dépend surtout de la volonté de Dieu et son plan. Dieu a besoin d'ouvriers, fidèles, travailleurs, capables de remettre la machine en route tous les matins, pas en leur propre nom, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, en mon nom. Si deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est en tant que représentant de celui qui les envoie à la place d'eux. Tous les politiciens ne sont pas des ambassadeurs. Les ambassadeurs sont spécialement appointés par le gouvernement pour être des ambassadeurs. Et ils parlent au nom du président de la République. Est-ce que nous sommes des ambassadeurs de Christ? Si oui, alors nous sommes réunis en son nom. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas tout à fait fini. Il y a normalement une deuxième partie à cette prédication qui sera plutôt orientée sur les dons que donne le Seigneur à l'Église. Alors on focalise beaucoup sur les dons spirituels qui existent, sur les ministères qui existent. Mais on oublie que Jésus a fait d'autres dons. Il a amené la captivité captive et il a fait des dons. Il a donné des dons aux hommes. Il y a beaucoup de dons dont on ne parle jamais ou très rarement ou dont on n'a pas conscience. Et peut-être que dans une prédication future, j'en toucherai un mot. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.